Tout le monde parle de la crise financière. Tout le monde. On en entend parler partout. D'ailleurs, cette discussion a remplacé la discussion traditionnelle qui consiste à parler de la pluie et du beau temps quand on ne sait pas quoi dire d'autre. Vous en entendez parler à la radio, vous en entendez parler dans les rues, vous en entendez parler partout. Et on entend aujourd'hui des chiffres incroyables. On estime par exemple que environ la moitié des Américains dépensent plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Et on évalue le montant des cartes de crédit qui ne sont pas payées et qui est reporté d'un mois sur l'autre à 915 milliards de dollars chaque mois. Nous sommes dans une civilisation, dans une société occidentale, et il est clair que nous dépensons plus que nous gagnons. Et nous ne sommes pas les seuls, les gouvernements font de même. On comprend ainsi que les difficultés s'amoncellent. Et vous avez remarqué sans doute comme moi, il n'y a pas de semaine qui passe sans que je reçoive dans mon courrier de la publicité pour recevoir une nouvelle carte de crédit. Si je les avais toutes gardées, je crois que j'aurais un portefeuille énorme. Fantastique tout ce qu'on pourrait acheter avec ça. Devant la situation qui ébranle le monde, je crois qu'il est important pour nous de regarder cette situation dans la perspective biblique, de nous placer dans une position où nous pouvons faire face à ces situations en fonction des principes que Dieu a donnés. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui à regarder comme Dieu voit, à nous placer du point de vue de Dieu pour regarder notre situation et la situation matérielle dans le monde et dans nos vies. Jésus a souvent parlé de l'argent. Relisez les paraboles de Jésus et vous vous rendrez compte que dans beaucoup de ces paraboles, Jésus va parler de l'argent d'une manière ou d'une autre. Et je pense en particulier à cette parabole qui est rapportée dans l'évangile de Luc au chapitre 12, que nous appelons la parabole du riche insensé. Parce que dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui tout d'un coup, une année, a des profits importants. Il a fait des bonnes récoltes et par conséquent, l'argent qu'il peut gagner s'amoncelle. Il lui faut de la place pour engranger tout le fruit de ses vergers et de ses champs. Alors il décide de construire des granges plus grandes pour pouvoir entasser davantage et il se dit « mais c'est fantastique, je vais pouvoir me reposer et jouir de la vie ». Et la conclusion est intéressante parce que dans l'évangile de Luc au chapitre 12, c'est le verset 21, Jésus conclut cette parabole en disant « il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même » et qui n'est pas riche pour Dieu. En fait, Dieu va lui dire, « Amasse, mon ami, amasse, mais cette nuit même, tu vas périr. Que vas-tu faire de tout ce que tu as ramassé ?» Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu, dit Jésus. Riche pour Dieu, c'est ce que nous sommes invités à être, riche pour Dieu. Mais c'est difficile quand on a du mal à joindre les deux bouts d'un mois à l'autre. C'est difficile d'être riche pour Dieu quand on est déjà pauvre soi-même. C'est difficile d'être riche pour Dieu quand on a l'impression qu'on n'arrive déjà pas avec le peu qu'on a. Et pourtant, nous sommes invités à être riches pour Dieu. Comment donc allons-nous faire? Une des choses qui s'est perdue dans notre temps, c'est l'idée de faire des économies. Et je le disais tout à l'heure, en réalité, de plus en plus de gens dans notre société dépensent plus qu'ils ne gagnent. C'est dire qu'on est loin de faire des économies. En fait, on avance de plus en plus dans l'endettement et la faillite. Économiser. Dans le livre « Foyer chrétien », Ellen White écrit ceci. Permettez que je partage ce paragraphe avec vous. Si vous aviez économisé comme vous auriez dû le faire, vous pourriez disposer aujourd'hui d'un large capital pour parer à toute éventualité et pour soutenir la cause de Dieu. Chaque semaine, vous devriez mettre de côté une partie de votre salaire et ne pas y toucher à moins d'une réelle nécessité ou la restituer sous forme d'offrande à Dieu, lui qui est le grand dispensateur. Économiser. On a l'impression que cette notion-là est oubliée parce que c'est plutôt dans l'autre sens que l'on va pour multiplier les dettes et les crédits. Et le livre des Proverbes est clair, cependant, au chapitre 22 et au verset 7, il est dit « Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête ». Et ce n'est pas exactement le programme que Dieu voudrait que nous suivions. Il nous propose au contraire d'éliminer nos dettes. Et curieusement, dans la situation actuelle du monde, on entend aujourd'hui de plus en plus de gens qui disent « Vous devriez éliminer vos dettes aussi ». On entend même parfois des banquiers le dire. Dans un livre, Larry Burkett, qui est maintenant décédé, écrivait ceci. Son livre s'intitule « Investing for the Future ». Il écrivait « C'est ma profonde conviction que se libérer des dettes devrait être le premier objectif d'investissement de chaque couple. » Un objectif d'investissement. On investit en payant ses dettes. En fait, ce n'est pas nouveau. Dans le livre « Foyer chrétien », on lit ceci. « Économisez dollar par dollar et remboursez vos dettes. Liquidez-les aussi vite que possible. Lorsque vous vous en serez entièrement libéré, que vous ne devrez plus rien à personne, vous aurez remporté une grande victoire. » C'est intéressant de voir à quel point, dans ce paragraphe écrit il y a plus de 100 ans, Ellen White souligne l'importance de se dégager des dettes. Le programme de Dieu, c'est de nous prendre là où nous sommes et de nous emmener dans une situation meilleure. C'est-à-dire de nous prendre dans notre situation de débiteur aujourd'hui, de nous amener dans une deuxième étape à être un économe et de nous emmener ensuite à être un investisseur. De nous prendre là où nous sommes avec nos dettes et de nous amener à économiser. Et puis ensuite de nous amener à investir. C'est dans cette direction que le Seigneur nous invite, de sorte que nous puissions devenir riches pour Dieu. Nous avons peut-être l'impression de ne pas pouvoir l'être actuellement. Le Seigneur voudrait nous inviter à devenir riches pour Lui. Mais alors, comment investir? Eh bien, le texte que nous lisions tout à l'heure nous suggère que la première manière d'investir consiste à payer nos dettes. Et quand je pense aux dettes que j'ai, je pense à celles que j'ai d'abord envers le Seigneur. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 27, au verset 30, il nous est parlé de cette dette que nous avons envers le Seigneur. Lévitique, chapitre 27, au verset 30, il est écrit ceci. « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » La dîme ne nous appartient pas. Nous devons donc payer cette dette au Seigneur, lui rendre ce qui lui appartient. C'est en réalité la première chose à faire. Le texte nous dit clairement, c'est une chose consacrée à l'Éternel. La première chose à faire consiste donc à rendre à Dieu ce qui lui appartient. Et de cette façon-là, nous remboursons nos dettes et nous investissons avec lui. C'est la première chose à faire parce que, si nous voulons que le Seigneur mette son nez dans nos affaires, il le fera sur le même principe qui nous apporte le salut, c'est-à-dire par la foi. Et si nous voulons rentrer dans ce système de foi avec Dieu, il faudra suivre son mode d'emploi, c'est-à-dire le mettre en premier. Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Par conséquent, si nous voulons que le Seigneur s'implique dans nos affaires, il faudra rentrer dans son système de foi, de confiance, et le mettre en premier lieu. Ce sera notre première manière d'investir. Ce sera aussi une manière de reconnaître qu'en réalité, nous sommes dépendants de Lui pour toute chose. Avant que le peuple d'Israël ne rentre dans la terre promise, par l'intermédiaire de Moïse, Dieu avait voulu rappeler cette grande vérité. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, se trouve cet avertissement que j'aimerais relire avec vous ce matin. Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 17, il est écrit ceci. « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Garde-toi de dire dans ton cœur, c'est grâce à moi. » Ce n'est pas grâce à moi, C'est grâce à la force, à la santé, au talent, au temps, à la vie que le Seigneur me donne. Et le reconnaître, c'est en réalité reconnaître notre dépendance de Dieu et le mettre en première place dans notre existence. Le Seigneur voudrait finalement qu'il devienne le centre de notre vie, même dans les questions matérielles et financières qui nous préoccupent. Ainsi, le Seigneur voudrait nous voir développer cette mentalité d'investisseur. Lorsque nous suivons un programme d'éducation pour nous former, nous avons l'intention de nous former pour un métier qui va nous apporter un salaire confortable. Parfois, nous étudions un peu plus pour avoir une meilleure qualification, donc avoir un meilleur salaire. Il peut arriver qu'en cours de carrière, nous retournions à l'école pour nous former davantage, de sorte que nous ayons un meilleur revenu. Pour nos enfants, nous faisons la même chose. Nous essayons de pourvoir pour eux la meilleure éducation, de manière à ce qu'ils aient un mode de vie qui soit encore meilleur que le nôtre, un salaire plus élevé encore. Mais dans quel but finalement? Est-ce que c'est dans le même objectif que le riche insensé de la parabole de Jésus, c'est-à-dire accumuler un peu plus? En fait, si nous cherchons une meilleure éducation en vue d'avoir une meilleure situation, donc un meilleur salaire, si nous cherchons en cours de carrière à nous éduquer davantage pour avoir des revenus supplémentaires, ce n'est pas pour avoir une plus grande maison, une plus grosse voiture, des habits plus chics et pour travailler moins. C'est en réalité pour pouvoir donner plus de manière à être riche pour Dieu. Ce n'est pas parce que nous recevons plus que nous devons dépenser plus. Ce n'est pas parce que nous recevons davantage que nous devons dépenser davantage. Mais si nous cherchons des salaires plus élevés ou de la promotion pour avoir un plus grand revenu, c'est pour être plus riche envers Dieu, pour faire bénéficier son œuvre de davantage de moyens, pas nécessairement nous-mêmes. C'est ainsi que le Seigneur voudrait nous faire avancer de cet état de débiteur vers une situation d'économe et puis finalement dans une situation d'investisseur, de celui qui est riche pour Dieu. Un jour, un jeune homme que nous appelons le jeune homme riche parce que nous ne connaissons pas son nom, est venu voir Jésus. Cet événement nous est raconté dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19 et vous connaissez cette histoire. Ce jeune homme, plein de bonnes intentions, se présente à Jésus et il a au fond de son cœur un manque. Il se rend compte qu'il lui manque quelque chose. Et il dit à Jésus, « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus va discuter avec ce jeune homme parce qu'il voit là quelqu'un de désireux de bien faire. Et vous vous souvenez comment Jésus va lui répondre. Il va lui dire, « Observe les commandements. » Et cet homme va lui dire, « Mais c'est ce que je fais depuis tout petit. On m'a éduqué de cette manière et je le fais volontiers. J'obéis à tous ces commandements. » Mais il semble dire, malgré tout, il me manque une chose. Et Jésus est d'accord avec cela. Il lui dit, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et le texte dit au verset 21, « Tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Un trésor dans le ciel. Cette histoire, si on se limite au texte que nous avons, ne finit pas très bien. Parce que, nous dit le texte, cet homme avait beaucoup de richesses et il a été très troublé par ce que Jésus lui a demandé. Ça semblait trop pour lui de faire cela, de se séparer de ses richesses et de suivre Jésus. Le texte nous dit qu'il s'en alla tout triste. Nous ne connaissons pas la fin de l'histoire, nous ne savons pas ce qu'il a fait finalement. Mais ce que Jésus lui dit est très intéressant. Dans notre lecture du texte, nous avons souvent confondu le trésor dans le ciel avec la vie éternelle dont ce jeune homme l'a parlé. Et nous avons pensé qu'en réalité, le trésor dans le ciel, c'est cette vie éternelle que Jésus propose à tous ceux qui renoncent à eux-mêmes et qui acceptent de le suivre. Mais la suite de cette histoire va permettre à Jésus de discuter avec les disciples, qui eux aussi ont des questions. Et j'aimerais lire la suite de cette histoire avec vous dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, à partir du verset 27. Évangile selon Matthieu, chapitre 19, verset 27. Il est écrit ceci. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Pierre, encore une fois, se pose la question et dit, « Seigneur, regarde, nous par contre, contrairement à ce jeune homme riche, sous-entendu, nous avons tout laissé, Seigneur. Nous qui avons tout laissé, qu'est-ce qu'on va recevoir comme récompense ?» Et Jésus lui dit, « Eh bien, vous qui avez tout laissé, vous serez avec moi dans le royaume et vous serez assis sur des trônes et vous jugerez les tribus d'Israël. » C'est peut-être pas exactement la réponse que Pierre attendait. Mais Jésus ajoute, tous ceux qui ont laissé tout ce qui leur est proche, que ce soit des gens ou que ce soit des choses, pour mon nom, celui-là recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Jésus, dans ce commentaire qu'il fait des événements qui se sont passés juste avant, montre que le trésor dans le ciel et la vie éternelle sont deux choses différentes. Je trouve intéressant le commentaire qu'Ellen White écrit dans son livre « Counsels on Stewardship ». Ceux qui éprouvent un intérêt réel pour la cause de Dieu et qui désirent tenter quelque chose pour en favoriser l'avancement, reconnaîtront que leur investissement est absolument sûr. Certains recevront le centuple dans cette vie et la vie éternelle dans le monde à venir. Mais tous ne recevront pas le centuple dans cette vie parce qu'ils ne pourraient pas le supporter. Si on leur confiait davantage, ils deviendraient des économes infidèles. Le Seigneur les restreint dans leur propre intérêt, mais leur trésor dans le ciel sera sauf. Combien meilleur est un tel investissement? Certains d'entre nous deviendraient des économes infidèles s'ils recevaient aujourd'hui au centuple de ce qu'ils ont donné au Seigneur. J'aimerais bien ne pas être de ceux-là. Cependant, dans ce texte, vous remarquez qu'Ellen White va dans le même sens de ce que Jésus dit. Le trésor dans le ciel est distinct de la vie éternelle. Ce sont deux choses différentes. Jésus en parle d'ailleurs dans le même évangile de Matthieu, au chapitre 6, au verset 19. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 19. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Autrement dit, nous sommes invités à faire des dépôts dans la banque du ciel. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, amassez-vous des trésors dans le ciel. Il y a moyen d'amasser des trésors dans le ciel, dit Jésus. Dans notre mentalité, nous avons peut-être fait du ciel quelque chose de très éthéré, quelque chose de très spirituel. Tout ce qui est dans le ciel nous dépasse les bornes de notre imagination. Et nous avons peut-être à la longue développé l'idée que tout ce qui est matériel est ici-bas et tout ce qui est spirituel, c'est là-haut. Et que lorsque nous serons au ciel, nous allons voyager sur des petits nuages avec une harpe dans les bras, chantant les louanges du Seigneur pendant le reste de l'éternité. Une vision qui est peut-être déformée par les images que certains auteurs en ont fait. Mais le ciel est très réel. Le ciel est une réalité. Influencé parfois par les philosophies païennes qui ont pénétré dans notre religion, nous avons parfois même fait du ciel quelque chose de tout à fait immatériel. Alors que la Bible nous dit, par exemple, qu'il y a un sanctuaire dans le ciel. Certains, finalement, ont relativisé cet enseignement de la parole de Dieu pour dire qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre comme le sanctuaire, mais pas un sanctuaire réel. De la même manière, lorsque nous pensons au ciel, il nous est difficile d'y penser d'une façon concrète, d'y penser comme étant ce royaume que le Seigneur veut nous offrir, nous y faire vivre pendant 1000 ans. Le ciel est véritablement réel et la Bible nous dit que nous pouvons y constituer un trésor. Dans le deuxième livre des témoignages, Ellen White écrit une lettre à une dame dont le mari avait fait des investissements malheureux, il avait fait une mauvaise gestion. Et elle écrit ceci. « L'entreprise qui consiste à vous assurer la vie éternelle n'a pas éveillé votre intérêt. En faisant cela, pourtant, vous auriez pu investir dans la banque du ciel qui ne fait jamais défaut. Vous auriez pu remettre vos trésors là où le voleur ne peut approcher et la rouille ne peut corrompre. Cette entreprise est éternelle et bien plus noble qu'une entreprise humaine, car les cieux sont bien plus élevés que la terre. » La banque du ciel ? Il y a une banque dans le ciel ? Dieu a-t-il mis un service bancaire dans le ciel par lequel les dépôts que je vais faire dans cette banque-là vont se multiplier, prospérer et constituer véritablement un trésor pour moi ? Jésus en parle de cette façon-là. Jésus, lorsqu'il annonce son retour, il dit « Je vais vous préparer une place, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Le Seigneur nous prépare véritablement une demeure. Ne me demandez pas comment elle sera, parce que là, mon imagination est bien trop petite pour comprendre la grandeur, de la richesse, de l'amour de Dieu dans ce qu'il prépare pour chacun d'entre nous. Mais Jésus a dit qu'il nous préparait une demeure. Et la façon dont Jésus parle nous fait comprendre que nous avons la possibilité de développer un trésor dans le ciel, meilleur encore que tous ceux que nous pourrions constituer sur la terre. J'aimerais revenir à ce texte qu'on a lu il y a un instant dans l'évangile de Matthieu. La traduction en français ne traduit pas véritablement ce que Jésus a exprimé, parce qu'en réalité, Jésus dit « Ne vous amassez pas pour vous-même des trésors sur la terre. » Mais verset 20, « Mais amassez pour vous-même des trésors dans le ciel. » Pour vous-même, dit le texte de l'original du Nouveau Testament. Amassez des trésors pour nous-mêmes. Vous voyez à quel point cela semble personnalisé. Nous avons un compte en banque au ciel dans lequel nous pouvons faire des dépôts dont nous serons les bénéficiaires. C'est ainsi que Jésus parle aux gens de son temps. Et à nous aussi qui attendons son retour. Dans un commentaire de ce texte, Ellen White écrit ceci, encore une fois dans Counsels on Stewardship. Elle écrit à propos de ceux qui veulent amasser et amasser à l'infini. Ils oublient que Jésus a dit « Amassez pour vous-même des trésors dans le ciel » et qu'en agissant ainsi, ils agiraient pour leur propre intérêt. Un trésor amassé dans le ciel est un placement sûr. Nul voleur ne peut l'approcher et la teigne ne peut l'atteindre. Ce texte est particulier. Ellen White, dans les manuscrits qu'elle a, soulignait très rarement des parties des textes qu'elle écrivait. Très rarement. Ce passage, en fait, est un des rares passages dans les écrits d'Ellen White où elle-même, dans ses manuscrits, a souligné une partie du texte. Et que pensez-vous qu'elle a souligné ? Elle a souligné dans son texte qu'elle a elle-même écrit, « Pour vous-même, amassez pour vous-même dans le ciel. » Autrement dit, la réalité de ce trésor que nous pouvons constituer dans le ciel est bien plus grande que ce que nous imaginons. Nous sommes invités à faire des dépôts sur ce compte céleste. Mais comment investir alors ? Eh bien, Jésus l'avait dit au jeune homme riche, « Va, vends ce que tu as et donne. » En fait, chaque fois que nous donnons pour ceux qui sont dans le besoin, chaque fois que nous donnons pour que l'Évangile soit propagé dans le monde entier et que l'Église puisse accomplir sa mission, nous faisons un dépôt dans notre compte, dans la banque du ciel. Écoutez ceci. Troisième livre des témoignages, Ellen White écrit ceci. Chaque occasion d'aider un frère dans le besoin ou d'aider la cause de Dieu en répandant la vérité est une perle que nous pouvons envoyer à l'avance en faisant un dépôt dans la banque du ciel pour qu'elle y soit gardée. Nous avons entre nos mains la possibilité de faire des dépôts dans notre compte qui est constitué au ciel et amasser pour nous-mêmes un trésor dans le ciel, un trésor différent de ce qu'est la promesse de la vie éternelle. Dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, Jésus fait clairement la distinction d'ailleurs entre le salut et la récompense. Vous vous souvenez de cette parabole, un maître va embaucher à différents moments de la journée des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Il leur promet un salaire honnête, le salaire journalier des gens de cette époque. Mais finalement, en fin de journée, certains ont travaillé depuis le matin et d'autres ont travaillé quelques minutes à la fin de la journée seulement. Tous vont recevoir le même salaire, parce qu'en réalité, nous recevons tous le même salut, qui a été acquis au même prix, que nous avons reçu aussi par la foi en acceptant de servir ce maître. C'est le salaire que ce maître va donner et qui est identique à tout le monde, qu'ils aient travaillé beaucoup ou qu'ils aient travaillé peu. Mais la récompense alors? La récompense se trouve dans la longueur du service que certains ont pu donner au maître dès le matin. C'est eux qui ont la grâce d'avoir la grande récompense d'avoir pu servir ce maître pendant toute la journée ou toute leur vie, si vous voulez. Ceux qui sont pénalisés, en fait, ce sont ceux qui ne sont entrés au service de ce maître que tard dans leur vie et qui n'ont pas pu le servir longtemps. Jésus fait la distinction entre le salaire, le salut et la récompense. C'est de cela que Jésus parle lorsqu'il parle d'un trésor que nous pouvons constituer pour nous-mêmes dans le ciel. Finalement, une richesse que je ne connais pas, mais que le Seigneur va mettre à la disposition de tous ceux qui sont à son service, des économes fidèles. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, Jésus en parle encore. Au verset 22, il est écrit ceci. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Votre récompense sera grande dans le ciel. » L'apôtre Paul en parle aussi dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, dès le verset 6, nous lisons ceci. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » L'apôtre Paul ici fait encore la différence entre le salut qui nous est offert par la foi en Jésus-Christ et la récompense que, en réalité, nous préparons par notre travail. Cette récompense que nous préparons par les investissements que nous faisons dans le trésor du ciel. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ainsi, le Seigneur nous propose de nous faire avancer de notre état de débiteur vers celui d'économe pour en venir à celui d'investisseur, de manière à devenir riche pour Dieu. Le Seigneur a véritablement ouvert un compte pour chacun d'entre nous dans le ciel. Et je suis curieux de savoir ce que le Seigneur va me donner au jour où, entrant dans son royaume, il me montrera ce qu'il y a dans mon compte. Parce que, finalement, c'est un compte que nous alimentons. Et j'espère que nous alimentons sans le savoir, en servant le Seigneur, en lui apportant ce qui lui appartient. Parce qu'en réalité, tout lui appartient. Même nous-mêmes. L'apôtre Paul nous rappelle que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 25, l'apôtre Jean présente cette promesse. Il dit, « La promesse qui nous a faite, c'est la vie éternelle. » C'est une promesse et nous en avons l'assurance. Mais je crois que nous pouvons avoir une semblable assurance par rapport au trésor que le Seigneur accumule et multiplie pour nous dans le ciel. Cependant, c'est notre vie. C'est notre vie et la façon dont nous allons servir le Seigneur qui va augmenter ce trésor dans le ciel. Nous le faisons en fournissant à l'Église et à Dieu, par conséquent, le moyen d'accomplir sa mission de répandre l'Évangile éternel dans cette génération. Mais je me pose la question de savoir pourquoi nous sommes parfois si réticents à investir dans le royaume éternel de Dieu. Et il est vrai que, curieusement, nous semblons malgré tout avoir plus confiance dans le banquier qui est en face dans la rue que dans le banquier qui est dans les cieux et qui a donné sa vie pour nous. Et je me pose la question, si nous sommes si réticents à lui donner de quoi augmenter le trésor qui est dans le ciel, est-ce que c'est peut-être parce que nous n'avons pas tellement envie d'investir dans le ciel, ne sachant pas si nous y serons après tout? Notre manque d'enthousiasme à investir dans le ciel ne parle-t-il pas de la mesure de notre foi dans le salut en Jésus-Christ? Car si nous n'avons pas la certitude d'y être, nous préférons effectivement investir ici-bas qu'investir là-haut. Autrement dit, nos investissements aujourd'hui parlent très fort sur la qualité de notre foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur. Dans sa parabole des talents, Jésus reçoit les comptes qui lui sont donnés par ses employés. Et à ceux qui ont été des ouvriers fidèles, il dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. » Et c'est vrai, le Seigneur nous confie véritablement peu de choses par rapport à l'infini de la richesse dont il est le propriétaire. Mais il nous propose de gérer un peu de cette richesse, un peu de temps, un peu de force, un peu de santé pendant le courant de notre vie pour savoir s'il peut nous confier les richesses infinies qui sont dans les cieux. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Amen.